Chapitre 51. Alors qu'Henrik continuait de gré ou de force son chemin, il devint de plus en plus évident que la passerelle végétale n'était pas le fruit du hasard. Par endroits, des amas de mousse ou des lianes renforçaient la structure, dont la stabilité s'améliorait régulièrement. Il y avait à présent le passage pour au moins 3 personnes et les parois, comme la voûte, composaient une muraille impénétrable. Ce qui était au début une piste, puis une sorte de passage surélevé, puis une passerelle évoluant vers un pont, était à présent un authentique tunnel dans lequel la lumière du jour ne pénétrait sûrement jamais. Très vite, ce tunnel se divisa en plusieurs couloirs, chacun donnant apparemment sur une infinité de salles, au sol, au plafond et aux murs végétaux. Dans cette cathédrale entièrement dédiée à la nature, des lianes et des branches vivantes dessinaient des tapisseries de verdure qui contrastaient agréablement avec la teinte brunâtre des racines et des plantes mortes. Lorsqu'on évoluait dans ce temple étrange, le monde extérieur perdait toute substance comme s'il n'avait jamais existé. Cet univers se suffisait à lui-même, ses lois s'imposant à toutes les autres et sa géométrie invariablement irrégulière, un tribut à payer quand on travaillait avec des matières premières vivantes, devenant en quelque sorte la règle universelle. Ici, les courbes organiques remplaçaient les coins, et on ne trouvait aucun matériau fabriqué par l'homme. Pourtant, tout cela était l'œuvre de l'humanité, ça ne faisait aucun doute, et l'entière structure semblait d'une grande solidité. Henrik se demanda pourtant s'il pourrait écarter les branches et les lianes, se créant une brèche au cas où il devrait s'enfuir en catastrophe. L'impression de solidité était bien réelle, certes, mais ce n'était tout de même qu'un assemblage de végétaux. Alors qu'il traversait une pièce ronde, comme toutes les autres, la familière le suivant toujours, le gamin approcha d'une paroi pour mieux se rendre compte. Ce faisant, il vit que les branches entrelacées étaient hérissées d'épines acérées. De près, on avait le sentiment d'être devant une haie d'épineux qui n'augurait rien de bon. Même si sa vie devait en dépendre, comprit Henrik, tenter de fuir par là aurait tout bonnement été un suicide. Car il ne s'agissait pas d'épines de rosier, susceptibles de causer des blessures douloureuses mais non mortelles, mais de véritables épieux végétaux, capables d'éventrer un être humain ou de le clouer à la paroi jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Conscient que la familière le surveillait, s'assurant qu'il n'essaierait pas d'échapper à son destin, Henrik traversa une multitude de pièces circulaires. Des bougies éclairant toujours son chemin, il traversa parfois des tunnels de connexion à la voûte si basse qu'il dut se baisser. Comme dans un bâtiment en pierre, il y avait des couloirs de toutes sortes, leur largeur et leur hauteur variant à l'infini. Dans une des salles, relativement grande, des milliers de lambeaux de tissu, de morceaux de ficelle et de fragments de lianes pendaient du plafond. À chacun était accroché un petit objet ou un animal mort. Henrik identifia des pièces de monnaie, des coquillages et des lézards à moitié décomposés. Pour ne pas heurter cette morbide collection, il baissa de nouveau la tête et bloqua sa respiration parce que la puanteur était insoutenable. Même si elle était plus stable et plus solide, la structure continuait à craquer et à grincer sous les pas du petit garçon, comme si c'était une façon de l'accueillir. On eût dit qu'il avançait à l'intérieur d'une toile d'araignée dont la propriétaire était pour l'instant absente. Mais en réalité, c'était bien pire que ça. Il s'était aventuré dans le repaire de la pitié silence, et elle était bel et bien là. Malgré les milliers de bougies, l'obscurité semblait tapie un peu à l'écart, sans cesse menaçante et prête à reprendre ses droits sur les lieux. Sans doute à cause de l'épaisseur et de la densité des parois, les sons du marécage parvenaient à peine aux oreilles d'Henrik. La puanteur, en revanche, s'infiltrait partout et la fumée odorante des bougies ne parvenait pas à la masquer. Tandis qu'il s'enfonçait dans le sanctuaire de la pitié silence, d'autres familières vinrent se joindre à la première, escortant Henrik afin qu'il arrive sain et sauf à destination. Ou, plus probablement, pour le dissuader de ficher le camp à toutes jambes. Dès qu'ils croisaient leur regard jaune malveillant, le gamin détournait vivement le regard, et lorsque les créatures furent au complet, soit au nombre de 7, il constata qu'elles étaient plus laides les unes que les autres. Quand il s'engagea dans un corridor plus large, Henrik s'aperçut du premier coup d'œil qu'il y avait bien plus de bougies disposées sur le sol et les parois que partout ailleurs dans la structure. Mais cette allée de lumière déboucha abruptement dans une salle obscure où brûlait seulement une poignée de bougies. Une question de place, sans doute, car presque tout l'espace était occupé par des corps nus, des éprouvettes et de gros bocaux. Il y avait aussi des jarres en argile de toutes les couleurs, et en plusieurs endroits, on avait écarté les branches et les lianes pour leur ménager une sorte de niche dans la paroi. Henrik préféra ne pas imaginer ce que contenaient tous ces récipients. D'après ce qu'il distinguait par transparence, dans le cas des corps nus par exemple, le contenu était pour l'essentiel un liquide trouble et sombre qui pouvait tout simplement être de l'eau boueuse. Des formes indéfinissables flottaient dans ce répugnant bouillon. Pour éviter de vomir, Henrik s'efforça de ne pas identifier non plus ces objets-là, mais dans une jarre, il crut pourtant reconnaître des dents humaines. Bizarrement, la collection d'immondices n'était pas le spectacle le plus terrifiant, et de loin. Partout dans la paroi végétale, des hommes et des femmes étaient prisonniers des épines. Une galerie de cadavres sur fond de lianes. Des larmes de terreur lui montant aux yeux, Henrik vit qu'il y avait des suppliciés dans tous les couloirs qui partaient en étoiles de la pièce. Des dizaines et des dizaines de dépouilles desséchées, aux jambes et aux bras couverts d'une peau parcheminée sous laquelle pointaient des os. D'autres morts semblaient beaucoup plus récents et des malheureux vivaient encore. Plongé dans une profonde stupeur, il respirait à peine et paraissait ne plus avoir conscience de ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient nus, mais dans leur cocon végétal, on n'apercevait pas grand-chose de leur corps. Leurs yeux bougeaient parfois, comme s'ils tentaient encore de savoir où ils étaient et de comprendre ce qui leur arrivait. De temps en temps, un gémissement s'échappait d'une bouche aux lèvres déjà bleues. Quand il cessa enfin de regarder fixement l'atroce collection de morts et de morts vivants, Henrik s'avisa que la pitié silence se tenait devant lui.